La REF, la rencontre des entrepreneurs de France, un événement organisé par le MEDEF les 26 et 27 août 2024 à l'Hippodrome de Paris-Longchamp sur Radio Immo et Radio Territoria.
Nous sommes en partenariat évidemment avec Action Logement sur cette 6e édition de la REF que nous faisons vivre pendant 2 jours. L'occasion pour nous de recevoir de nombreux invités autour de cette table notamment. Débat, keynote, conversation et talk pendant 1 jour et demi. Et justement, l'invité que je reçois aujourd'hui participe au talk. On va en parler dans un instant. Assertivité, créativité, esprit critique, adaptabilité, autonomie, intelligence émotionnelle, flexibilité. Au programme du talk de la REF, il sera question tout à l'heure d'un débat sur toutes les fameuses compétences douces, les soft skills. Le pouvoir des softs, c'est le thème d'ailleurs du débat. Bonjour Elodie Sarfati.
Bonjour.
Alors vous êtes la fondatrice et CEO de People In, c'est une start-up qui est née en 2017 du côté d'Avignon. Vous proposez finalement une solution tech pour améliorer le processus de recrutement des entreprises qui sont vos clients au travers d'un test personnalisé, c'est bien de ça dont il s'agit ?
C'est exactement ça, c'est un test de mise en situation, un cas pratique et non un test de personnalité comme ce qui peut parfois exister. Et l'idée, c'est effectivement de le mettre à disposition des entreprises le plus tôt possible dans le process, en amont du CV dans l'idéal, pour aller chercher ces soft skills dès le départ du processus de recrutement.
Quand on parle de cas pratique, on parle de quoi en fait ?
On parle vraiment d'une mise en situation. Ça peut être un business case, mais ça peut être aussi j'écoute un client parler et je lui effectue une réponse. Donc je m'enregistre vocalement dans le test. Ça peut être aussi bien des questions qui sont des questions contextuelles dans lesquelles je vais me positionner sur un QCM, mais ça ne va jamais être je suis plutôt sociable ou réservé. Ça va être effectivement le client vous donne ce type d'information. Est-ce que vous lui répondez plutôt A, plutôt B, plutôt C? Ça, c'est une option. Mais ça peut effectivement aussi passer par la rédaction d'un mail, passer par la priorisation d'action après avoir lu des documents et compris un contexte. Ça peut être, comme je vous le disais, un enregistrement vocal. C'est très, très varié.
Alors, pour se projeter, est-ce qu'on peut avoir un exemple comme ça de questions qui peuvent être posées?
Oui, bien sûr. Alors, dans nos tests, on a quand même des compétences qui ressortent régulièrement, notamment la compétence liée à l'écoute et l'empathie ou la satisfaction client. Donc, souvent, on a des contextes qui commencent par des problématiques propres à l'entreprise. Donc, on va personnaliser pour chacun de nos clients et qui vont faire parler un client. Alors, parfois un avatar qui parle et qui vont généralement être pas contents. Donc, on a un cas client à résoudre avec un mécontentement client et des documents. Soit des procédures, si on est plutôt sur un aspect procédural, soit parfois tout simplement du contexte pour alimenter le contenu que peut donner le candidat à ce client. Et le candidat, donc dans la page d'après, va devoir effectuer une réponse vocale et s'enregistrer dans le cadre du test et en répondant au client concrètement. Donc ça, d'accord, c'est un exemple.
Okay.
L'autre exemple, c'est souvent sur la capacité soit d'analyse, soit d'organisation. Plus on monte, plus on monte dans les niveaux, effectivement, plus l'analyse est poussée. Donc on va avoir par exemple, j'ai le cas par exemple sur Avis, la location de voiture, on va avoir pas mal d'informations avec des arrivées de voitures, des départs de voitures, des nettoyages à effectuer, des clés à remettre. Et dans ce contexte-là, on va demander au candidat de prioriser ses actions dans un temps donné. Donc on va travailler à la fois sur la compréhension de l'environnement et à la fois en fonction du timing, qu'on va plus ou moins resserrer selon le besoin sur la gestion du stress.
Parmi vos clients, est-ce que vous avez des entreprises qui travaillent dans l'immobilier, le logement ?
Alors, j'en ai eu, effectivement. J'ai travaillé pour une chaîne de l'immobilier.
Ouais.
Et peut-être prochainement, j'espère en avoir d'autres. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur les postes liés aux compétences comportementales commerciales, on a beaucoup de demandes. On a vraiment beaucoup de demandes, que ce soit tout type d'entreprise confondue.
Oui, d'accord. Donc, c'est tout type d'activité, en fait. Vous vous adaptez.
Oui, on s'adapte à n'importe quelle activité. Peut-être que la contrainte, je dirais, c'est quand même de privilégier les compétences douces ou comportementales. Donc effectivement, c'est très varié. Ça va de l'esprit de curiosité à l'esprit d'équipe en passant par la capacité à s'exprimer. Mais ça doit être prioritaire dans la recherche. C'est-à-dire que si effectivement votre priorité, c'est 3 compétences techniques, c'est du hard pur, on va moins intervenir. Parce que là, vous avez besoin effectivement d'un technicien, ingénieur ou quelque chose qui est plus technique pur.
Alors évidemment, ça dépend des demandes de vos clients, mais si on reste dans le domaine justement de l'immobilier, un commercial par exemple, quel type de compétences douces il faut vraiment maîtriser, quoi ?
Alors là, pour le coup, je peux vous les citer, ceux conseils sur lesquels on a travaillé. On a travaillé sur la persévérance, on a beaucoup travaillé sur cette compétence-là et on a travaillé sur la satisfaction client.
D'accord.
Donc principalement sur un autre cas qui était moins de la compétence immobilière directe, mais c'était aussi recherché dans les postes de commerciaux, c'est évidemment l'expression orale. Mais voilà, c'est vrai que dans ce test-là, on a travaillé sur la persévérance à travers un test dans lequel le candidat pouvait s'arrêter systématiquement à chaque étape, qui devenait D'accord. de plus en plus fastidieuse, hein, clairement. Et là, on allait chercher ceux qui allaient vraiment le plus au bout du test, sachant que bah, d'un moment, forcément, ça ne leur apporte plus rien. Mais on cherchait à aller chercher vraiment ces candidats-là qui avaient cet esprit de combativité dans ce test-là.
C'est Peopleine qui s'occupe de la rédaction des questions ?
Oui, alors certains clients qui ont des services notamment très poussés de formation d'ingénierie pédagogique demandent à travailler sur les tests avec nous et il n'y a aucun souci. Mais dans le principe, on a nos ingénieurs pédagogiques, donc on travaille, nous, sur la création des tests.
Ok, et ensuite, comment est-ce que vous analysez derrière les tests ?
Alors, il y a deux options. Ouais. Soit on a un test avec ce qu'on appelle des modules, nous, c'est-à-dire des exercices. En fait, on a des contenus d'exercices dans lesquels c'est 100% automatisé. Je vous ai donné tout à l'heure le cas de la priorisation.
Ouais.
Ça, c'est 100% automatisé. On va calculer les erreurs, les écarts. C'est le cas aussi du QCM. C'est le cas aussi de la question courte. On a des questions courtes automatisées. On va calculer les différences et les erreurs. Si je demande quelle est la couleur dans la procédure du code danger, on va calculer et vérifier. Et ça, c'est automatique. Donc, on peut avoir tout simplement un calcul par algorithme des écarts. Ce n'est pas de l'IA, mais c'est du calcul. On peut aussi proposer une évaluation manuelle au recruteur.
D'accord.
C'est-à-dire qu'il y a une part qui est automatisée. Il va avoir un pré-score et il va devoir, lui, aller évaluer le candidat de façon anonyme en évaluant uniquement le résultat du test. Donc c'est le cas notamment pour tout ce qui va être expression orale, dans lequel il va écouter le candidat, et nous on a une grille qu'on lui met à disposition, quand même relativement courte, parce que le but c'est que ça aille quand même assez vite, mais très objective. Donc par exemple, on va évaluer le ton, le rythme, rythme ou débit, on va évaluer la syntaxe, voilà, on va essayer d'évaluer des critères très objectifs sur des points très minimes pour être très objectif.
Et est-ce que le test, c'est l'étape ultime avant le recrutement ? Ou c'est l'ouverture justement à des entretiens plus poussés après avec l'équipe avec qui on va bosser ?
C'est une bonne question. En vrai de vrai, l'objectif Peopleine, c'est que ce soit la première étape.
Ouais.
C'est-à-dire qu'à la place du CV, on propose cette étape-là parce que nous, on a fait le travail avec nos clients de travailler, de prioriser les compétences prioritaires et de se dire, en fait, c'est des soft skills.
Ouais.
Alors arrêtons de regarder le CV et concentrons-nous sur ces compétences-là sur le test. Et finalement, nous, on va évaluer les trois premières. Donc le reste, on peut le voir en entretien. La réalité, c'est qu'on a 90% de nos clients qui font ça.
D'accord.
Et 10% qui l'utilisent de façon un peu plus poussée, mais dans ce cas, c'est un test plus long.
D'accord.
Qui l'utilisent effectivement entre l'étape de présélection et l'étape finale. Et généralement, pour que ça reste quand même dans l'état d'esprit, c'est quand même des clients qui sont assez ouverts sur l'étape 1 du CV.
Okay.
Et qui viennent essayer d'élargir un peu et se réconforter aussi sur leur choix premier.
Alors vous êtes en mode SaaS.
Oui.
C'était pas le cas d'ailleurs au départ. Est-ce que vous avez des retours rapidement comme ça, un chiffre en termes de statistiques, parce qu'on parlait d'améliorer quand même le recrutement. C'est là l'objet du test. Est-ce qu'on a des chiffres, ouais, des données, des datas ?
Oui, effectivement, au départ, on était en cabinet de recrutement avec des tests internes. Donc là, on a des chiffres très probants, puisque 95% des candidats qu'on a envoyés ont validé leur période d'essai. En moyenne, en France, c'est plutôt 86-87%. Ensuite, on a surtout un chiffre qui est, pour moi, qui est très important, c'est que nos clients qui ont recruté, qui sont satisfaits d'avoir recruté, ils nous disent à 70% qu'ils n'auraient jamais reçu le candidat s'ils avaient vu son CV. Donc, en ce sens, je trouve que c'est ce qui est satisfaisant pour nous, en tout cas, quand on travaille sur
les tests. Et pour le coup, c'est une data qui est vraiment parlante.
Ouais.
C'est la première fois que vous venez sur cet événement ?
Oui.
C'est quoi l'intérêt, alors, en dehors du fait que vous allez parler de quelque chose que vous connaissez, qui est donc le pouvoir des soft skills, mais quel est l'intérêt pour une jeune entrepreneur comme vous de participer concrètement à ce type d'événement ?
Alors, il y a plusieurs intérêts. Évidemment, l'intérêt de parler de ce sujet, d'évangéliser un peu sur les soft skills, parce que ça a évolué. Le Covid a accéléré aussi quand même l'évolution Clairement. Autour de ce sujet. Mais malgré tout, on a encore quand même, je trouve qu'on a encore deux mondes dans l'entrepreneuriat. On a encore beaucoup de... d'entreprises qui fonctionnent finalement sur un autre temps que celui avec lequel nous on fonctionne et qui ont besoin d'en savoir davantage là-dessus et pour le coup pour lequel nous on a besoin d'aller aussi évangéliser sur ce sujet. Ça c'est vraiment le point numéro un. Le point numéro deux, bien sûr, bah, c'est les échanges, les rencontres, c'est tout ce que peut apporter une réunion comme celle-ci avec avec un partage de connaissances et de personnes du monde de l'entrepreneuriat. Donc c'est à la fois porteur pour moi et à la fois pour mon réseau. Donc voilà, ça c'est vraiment, en ce sens, je pense que c'est vraiment intéressant.
C'est du win-win quoi.
C'est du win-win carrément.
Complètement. Ouais. Vous êtes donc chef d'entreprise dans la boîte PeopleIn, il y a combien de collaborateurs ?
On est 12 aujourd'hui.
Vous êtes 12 aujourd'hui, vous étiez combien au départ ?
Moi, toute
D'accord.
seule.
D'accord, vous toute seule, ouais. Donc vous avez grandi, vous vous êtes développée. Est-ce que vous avez dû vous-même développer vos propres soft skills pour justement pouvoir aspirer, je dirais, cette évolution, ce développement d'entreprise ?
Bien sûr. Je pense que déjà, mon parcours de base, il est inondé de cette question des soft skills. Ouais. Quand moi, j'avais 25 ans, bon, ça fait un peu... On ne va pas dire ça fait combien de temps. Hein. Quand j'avais 25 ans, j'étais considérée comme folle de quitter un CDI à 25 ans, mais aujourd'hui, c'est normal, en fait. J'ai repris des études à 26, j'ai monté une première boîte à 27, et en fait... ça a toujours fait partie de ma vie, en fait, de me dire, mais en fait, on apprend des choses tout le temps. J'ai aussi grandi dans des banlieues parisiennes qui ne sont pas très reluisantes, dans lesquelles on n'a pas un avenir très certain. Et tout ça, ça nous fait grandir, ça nous apprend des choses. Ça ne pouvait pas en être autrement, en fait, quand je me suis posé la question de me dire, mais en fait, maintenant que je suis à Avignon, qu'est-ce que je fais ? Et ça, c'est, voilà, ça faisait vraiment partie de moi, déjà. Donc, c'était là. Pour le coup, je suis quand même persuadée qu'on doit en apprendre et les faire évoluer tous les jours. Mmh. Donc, et là, celle de la persévérance, elle a quand même été bien travaillée parce que c'était long, clairement. Mmh. C'était d'autant plus long que, j'ai pas choisi Paris pour m'installer. Donc celle-ci, oui, j'ai vraiment dû la travailler. Je pense que je suis aussi partie d'une génération qui veut tout avoir vite et faire tout vite. Là, il a fallu prendre sur moi pour que ça évolue et que ça devienne ce qui était prévu dès le départ, hein, une plateforme SaaS. Hein. Donc rien que ça, ça a pris quand même du temps. Il y a d'autres, évidemment d'autres soft skills qui ont dû être travaillés. Je pense effectivement à la question de la prise de parole en public, à la gestion du stress... Ouais, entre autres, mais
l'adaptabilité aussi, sûrement.
L'adaptabilité aussi, même si voilà, c'est quand je parlais des choses que je pense que j'avais un peu au fond de moi, ça vraiment, je suis passée du coq à l'âne en permanence en fait, et c'est ce qui fait que mon CV était illisible et qu'on m'a dit que j'arriverais jamais à rien, mais en fait, vous allez voir.
Parce que vous aviez un objectif.
J'avais un objectif, et puis quand il a fallu reprendre des études, j'ai repris des études, c'était pas un problème en fait, sur le moment, tout était possible, j'ai toujours cru que on pouvait tout faire. Je ne sais pas si c'était à tort ou à raison, mais je pense que c'était possible et voilà.
Élodie, un grand merci d'être venue sur ce plateau. PeopleIn, on vous retrouve sur Internet, évidemment, il y a un site.
Oui, people-in.fr.
Tout simplement. Voilà. C'est aussi ça, la REF, en fait. C'est de pouvoir rencontrer comme ça des entrepreneurs et qu'ils nous parlent de leur expérience. Et sur Radio Territoria, mais aussi sur Radio Imo, eh bien, nous aimons vous faire découvrir comme ça des portraits. Merci beaucoup.
Merci.
Bonne continuation, bonne REF, bon débat.
Merci beaucoup.
Merci également à vous de votre fidélité. C'est la REF, c'est la 6e édition. Et nous vous l'avons vivre en direct sur les antennes de Radio Territoria et Radio Imo, partenaires médias de cette 6e édition. Merci de votre fidélité et à très vite.
La REF, la rencontre des entrepreneurs de France, un événement organisé par le MEDEF les 26 et 27 août 2024 à l'Hippodrome de Paris-Longchamp sur Radio Imo et Radio Territoria.